Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout un très joyeux anniversaire à tous les amoureux de l'Olympique de Marseille. Ils sont très courageux, je plaisante, 120 ans, ça se fête bien sûr et les supporters ont été à la hauteur de l'événement hier face à Saint-Étienne, les supporters mais également les joueurs qui ont assuré l'essentiel, à savoir la victoire. Bonjour et joyeux anniversaire à vous, donc craque les bras.
Merci, je viens que pour les belles victoires, les gros matchs et voilà, c'est pour ça, je suis ravi.
Vous étiez là la semaine dernière.
Je me rappelle pas. Ah, mais si, a gagné à Nice.
Non, vous êtes venu avant.
Ah, vous êtes sûr?
Ouais.
Je me rappelle pas.
J'en suis à peu près certain. Alors, c'est un avant-centre argentin
que c'est un journaliste.
Qui a offert la victoire à l'OM hier. Un de vos nombreux héritiers. Benedetto, c'est un peu un de vos héritiers. Carlos Bianchi, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Très bien. Et content parce que lui, c'est quelqu'un que tout le monde attend. Qui démontre ses qualités et jusque là
à la moyenne, ancien de Boca Junior, un ancien de votre maison,
ouais, à la moyenne ça va.
Alors il n'y a pas que les Marseillais qui ont été à la hauteur des attentes hier. Le spectaculaire duel entre la Juventus et Naples a tenu toutes ses promesses en Italie, même s'il faut avoir une pensée pour le très malheureux Kalidou Koulibaly. Une autre vedette sénégalaise doit surmonter quelques frustrations ces jours-ci. Un certain Sadio Mané fâché contre Mohamed Salah, grand oublié surtout des podiums de fin d'année, celui du joueur UEFA de l'année et celui du prix The Best de la FIFA, podium dévoilé aujourd'hui. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Avec vous, nous reviendrons aussi sur le derby du nord de Londres qui nous a lui aussi parfaitement tenu en haleine, Arsenal-Tottenham, avec un bon Guendouzi qui était récompensé ce matin.
Un bon Guendouzi, un bon Aubameyang, la casette intéressant, bref, le meilleur championnat du monde qui a encore régalé.
Merci à David Finzel et Laurence Salerno, sans qui rien ne serait possible. Radio Foot, c'est parti.
J'ai vu l'ambiance, j'ai pensé qu'aujourd'hui on va gagner cette match. C'est incroyable. C'est la première fois. Évidemment, Porto a été spécial. Zenit aussi, mais cette ambiance est incroyable.
L'une de Benedetto Sarr et maintenant le ballon dans l'axe pour Benedetto.
L'OM enchaîne une deuxième victoire consécutive pour l'anniversaire des 120 ans du club et se replace à 2 points des équipes de tête.
Jump de Van Halen, un tube qui appartient au passé hein, désormais. Mais c'est la musique qui accompagne l'entrée des joueurs sur le terrain. Au stade Vélodrome de Marseille, une introduction qui ne fait pas vraiment dans la dentelle, mais qui fait pleinement partie de l'histoire de l'OM. Vous confirmez, Marc Libra, ce jump, exactement. Quand vous l'entendez, ça fait remonter des choses.
Ah ben, c'est toujours une pensée par rapport à ce couloir historique de l'époque que j'ai connu. Alors aujourd'hui, il est un petit peu différent, il y a des caméras partout, ça change. Avant, il y a des escaliers, c'était plus sombre. C'était à l'époque Bernard Tapie qui avait mis ça en place, quand il est arrivé, je crois, 86 ou 87 au niveau de la musique. Il y avait un coup d'essai, mais je me rappelle plus quoi. Salim, je vous interdis de ricaner parce que je sais ce que vous allez dire.
Non, mais ça veut dire quoi? C'était plus sombre, plus discret. On pouvait faire ce qu'on veut dans le couloir. On pouvait dire des choses.
On pouvait se saluer cordialement. C'était plus vivant. Hein, Carlos, à l'époque?
Ça rigolait pas.
on devrait faire une émission spéciale tunnel de l'époque.
Qu'est-ce qu'il pouvait se dire
dans ces fameux tunnels? Ouais.
Il y avait des tunnels.
Le match commençait là?
À la fin du match, tu sais, il y avait quelques-uns qui restaient sur le terrain parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le tunnel. Hein.
Bon, Jump a été relégué dans les oubliettes de l'histoire de la musique. Son actualité, elle est surtout footballistique pour nous. C'est la musique de l'Olympique de Marseille, en tout cas de cette entrée sur la pelouse du Vélodrome. Et Jump a résonné une nouvelle fois hier dans un stade Vélodrome de gala. Et pour cause, l'OM vient de fêter ses 120 ans d'existence avec, en guise de cadeau d'anniversaire, une victoire 1-0 face à Saint-Etienne. C'était à l'occasion de la 4e journée de Ligue 1 grâce à Dario Benedetto, buteur à la 33e minute de jeu. Alors, outre Marc Libra, un autre amoureux de l'Olympique de Marseille est avec nous, en direct même de la cité phocéenne, Gilles Pérez. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous. Tous mes respects à l'Abuelito Carlos Bianchi et bien sûr au grand et distingué Marc Libra.
Alors Gilles Pérez, on ne vous présente plus. Ancien de la maison, ami, compagnon de route de Radio Foot, vous êtes un peu nos yeux et nos oreilles dans la cité phocéenne. Et d'ailleurs, vous étiez dans les travées du Stade Vélodrome hier. Vous avez assisté à ces célébrations, à cet anniversaire qui a été dûment célébré, dûment fêté par les supporters.
J'essayais de vous représenter, Hugo, dans les tribunes, parce que j'ai compris tout à l'heure à votre ton cynique que vous ne partagiez pas les valeurs de ce club en France.
J'ai juste dit que vous étiez courageux. C'est pas toujours simple.
Donc effectivement, on a eu de jump, on a eu surtout, je vous cache pas, une ferveur populaire qui m'a remonté bien des années auparavant. Alors j'ai pas encore fêté mon 120e anniversaire, mais en tout cas, je vous cache pas que tout d'un coup, je me suis revu tout minot, quoi, partager les travées de ce vélodrome quand encore il y avait les quarts de virage et qu'il fallait se tenir aux mains des copains, des amis, des parrains pour pouvoir tenir tout le match. Et tout d'un coup est remontée une vraie ferveur qui est à l'image de cette ville. C'est vrai que cette ville, elle vit foot, elle respire foot, elle peut déprimer les rares soirs de défaite, mais ça ne dure pas longtemps. Mais surtout, tout d'un coup, on se retrouve. On retrouve là le boulanger, on retrouve le frère, on retrouve l'ami. Et Marseille, ça fait partie de la famille, quoi. C'est « Oh, tu vas bien, Nino ? Oui, tu vas bien. Et alors l'OM, comment ça va ?» etc. Et ensuite, on enchaîne la discussion. Et hier, Boudiou, quelle soirée ! Vous les avez entendus, ce chant, à la télévision ? Je ne sais pas, parce que nous, on a loupé quelques actions. Je vous cache pas, parce que on était sous les tifos. J'étais avec les camarades de la vieille garde, vous savez, c'est les vieux grognards qui ont fondé le commando ultra en 1984, donc le CU84, et là, il y a la vieille garde, c'est vraiment les premiers, les tout premiers qui étaient là au tout début en 1984 pour agiter les premiers tifos, c'est le premier club ultra de France d'ailleurs, hein. C'est que le phénomène ultra atterrit en Italie, et ensuite, logiquement, grâce à Gênes, grâce à d'autres, il est arrivé jusqu'à Marseille pour ensuite essaimer un peu partout dans l'Hexagone. Donc hier, eh ben, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté d'agiter des tifos différents qui étaient magnifiques pour les deux premiers, qui étaient l'anniversaire du club du Commando Ultra 1984. Et puis en face, lui répondait le 25e anniversaire des MTP. C'est ce groupe étrange fondé par Patrice de Peretti, de P. Qui s'appelle Marseille trop puissant.
Ouais, alors une formule qui résume assez bien la gouaille marseillaise.
Et je dois dire que hier, on était sous les tifos comme ça au tout début du match, on a chanté, on n'a pas arrêté de chanter, et il faut remercier monsieur l'arbitre Benoît Millot qui n'a pas arrêté la rencontre. C'est quand même la première fois que une rencontre peut aller jusqu'à son terme depuis la nouvelle règle de la lutte contre l'homophobie, et nous avons pu donc dire accueillir nos amis stéphanois, logiquement accueillir et donner quelques mots doux certainement à la Ligue pendant une bonne partie du match, et puis ensuite il y a eu l'explosion avec ce but incroyable de Dario Benedetto.
Oui, qui arrive au terme d'une... Excusez-moi, Gilles Pérez, juste le raconter, ce but au terme d'une superbe action collective amorcée par Benedetto. Il y a Sarr, il y a Sanson, lancé dans la surface, et qui sert parfaitement Dario Benedetto. Gilles, je vous redonne la parole, mais Marc, Piaf, il a envie de réagir à ce que vous dites.
Gilles a presque tout dit. C'est vrai que le Commando Ultra fête ses 35 ans hier, mais c'est surtout une ambiance qui est partie très tôt le matin. C'est-à-dire que on s'est retrouvé à une époque dans les années 90 où à 8h, 9h du matin, les gens étaient dans les rues et commençaient à chanter et danser. Tout au long de l'après-midi, on a vu un engouement terrible dans la ville, dans les tunnels de Marseille, des fumigènes, des chants, ils avançaient de la canne-bière. Mais ça a été une dinguerie. Et ça, moi, je l'ai connu dans les 90, quand j'étais encore au centre. C'était gigantesque. Et c'est vrai que, alors hier, je te confirme, Gilles, qu'on n'a pas forcément tout entendu, parce que des fois, on entendait un petit peu les bonnes chansons, et les vilaines chansons, on les entendait pas. Mais il vaut mieux. Mon fils était vraiment aussi sous les tifos, et il m'a dit, il avait plus de voix, on a chanté à la gloire, de tous nos copains, adversaires, voilà. Mais heureusement, on n'a pas tout entendu, mais en tout cas, c'est vrai que on a retrouvé cette ferveur qu'on a pu voir lors de la finale, la saison passée, à Lyon, contre l'Atlético.
Oui, de l'Europa League en 2018.
La finale de l'Europa League sur le quart et la demi, cet engouement et cette ferveur populaire marseillaise.
Comme quoi, parce que on a quand même un début de saison où il y a une certaine tension qui existe entre les supporters et la direction notamment. On se souvient du premier match à domicile Reims. À la maison face à Reims, la défaite, et surtout on se souvient de la tension, du climat qui était particulier entre les supporters et les joueurs. Oui, Carlos Bianchi s'est levé parce que j'ai dit Reims, hein, ou plutôt Marc Brad dit Reims, donc il s'est levé évidemment. Mais comme quoi, quand il y a un grand événement, quand il y a un grand moment, quand il y a quelque chose de très particulier, les supporters de l'OM, mais il y a d'autres clubs évidemment qui sont comme ça aussi, mais là, précisément, dans ce cas-là, c'est l'OM, ils savent se réunir, ils savent se dire, attends, ok, les dirigeants les aiment pas, mais il y a quelque chose de plus important que les dirigeants,
c'est l'OM.
Il y a le logo, il y a l'écusson, il y a les 120 ans, et ça, c'est à part.
Et justement, Carlos Bianchi, vous avez un souvenir de déplacement au Vélodrome, de ce que représentait l'OM à l'époque où vous étiez joueur en France?
Mon dernier but à l'extérieur, je le marquais à Strasbourg, à Marseille. Je crois que c'était l'année 1979. On a battu avec Strasbourg 3-1. Je marquais deux buts. Un but que je marquais, c'est Domenech qui me donne le ballon en profondeur au milieu terrain. Et je commençais à courir avec Trésor. Trésor, il allait trois fois plus vite
Marius
que moi.
Marius
Trésor. Il allait trois fois plus vite que moi. Mais je ne sais pas comment il a fait, il ne m'a pas attrapé. Et je crois que le gardien, c'était Castaneda.
Non, pas Castaneda, non, pas à l'époque-là.
Mijon,
Mijon.
Gérard
Mijon. Gérard. Exactement.
77. J'ai marqué le but. On a battu Marseille 3-1. J'ai marqué deux buts ce jour-là. C'était mes derniers buts à l'extérieur.
Ça s'appelle le sens de l'hospitalité.
C'est le sens de l'hospitalité. Les Marseillais, ça va.
Mais c'était toujours difficile d'y aller.
Bah oui.
C'était toujours difficile parce que j'avais.
En raison de cette ambiance.
Quand je suis arrivé, ils jouaient Escoblar. Il y avait Magnusson. Magnusson et Escoblar.
Deux des très très grands joueurs de l'histoire de l'OM.
Ils avaient une sacrée équipe. Il y avait Charlie Bonnet.
Ouais. Sur le côté.
Charlie. Il y avait Zwanka.
J'étais Zwanka. Derrière, des poètes derrière.
C'est ça.
Alors, l'occasion de rappeler que l'OM a donc 120 ans d'existence et une très longue et belle histoire. La plus belle partie de cette histoire, elle s'est écrite dans les années 80 et 90 grâce à un homme, forcément controversé, mais c'est quand même grâce à lui, qui s'appelle Bernard Tapie, Gilles Pérez. Il n'était pas là hier. Bon, on sait qu'il est malade, mais il n'était pas invité. Ça a créé une certaine polémique. Il incarne à la fois la face lumineuse et la face sombre de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça a pesé, cette absence hier au Vélodrome?
Écoutez, il était là symboliquement, puisqu'il y avait tout de même ce tifo brandi notamment par le commando ultra, où il y avait marqué « Notre boss à jamais, Bernard Tapie ». Donc symboliquement, il était représenté. Effectivement, les nouvelles directions de l'Olympique de Marseille et Jacques-Henri Hérault à sa tête ont refusé d'inviter Bernard Tapie parce qu'il aurait eu des propos désobligeants à l'encontre de la nouvelle direction. Mais je dois dire que hier, finalement, c'est pas tant la direction de l'Olympique de Marseille qui nous importait, c'était véritablement son histoire. Et son histoire, elle est à jamais marquée par le passage de Bernard Tapie aussi. Elle est surtout à jamais marquée par cette étoile qui lui, et je vous rappelle qu'on est le seul club en France à porter une telle étoile, car j'ai beau chercher dans ma mémoire ou même sur Internet, je ne vois aucun autre club
en France. En tout cas, vous ne serez jamais les premiers, ça c'est sûr. Même si le PSG a gagné une Coupe d'Europe également, mais une moins prestigieuse.
Il n'existe plus.
C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté.
Continuez Gilles, excusez-moi.
Non, de fait, c'est vrai qu'on était finalement assez peu dans cette polémique-là. Il était important que symboliquement Bernard Tapie soit présent parce que c'était le retour à ces années 93. Il fallait réveiller ces années 93 pour mettre un peu de folie dans ce magnifique souvenir qu'a été cette rencontre d'hier, qui va marquer l'histoire. Moi, je vous assure, je prends les paris aujourd'hui en début de saison, elle va marquer les mémoires collectives, elle va marquer la saison de l'Olympique de Marseille, parce que tout d'un coup, vous avez ce nouvel entraîneur qui vient d'arriver et qui ne comprend pas où il est tombé. Tout d'un coup, il découvre une ambiance qui est une ambiance argentine, qui est une ambiance de folie, qui est une ambiance de véritable ferveur de tout un peuple, qui est le peuple marseillais, qui s'est exprimé hier soir. Rendez-vous compte, en deuxième mi-temps, au lever de rideau de la deuxième mi-temps, tout d'un coup, vous avez deux immenses tifos qui apparaissent, notamment pour la première fois en France, un tifo en 3D, où il y avait la Ligue des Champions, qui était représenté avec le symbole du commando des ultras. Et puis ensuite, vous avez pendant 15 minutes une fumée rouge magnifique qui embrase tout le virage sud et qui, d'un coup, nous montre que, quelles que soient les règles édictées par l'UEFA, par la FIFA, par la Ligue française de foot, malgré tout, le football reste un moyen d'expression populaire. Et hier, c'est bien ce qu'ont voulu signifier les groupes de supporters, totalement endiablé, je ne vous le cache pas, et je me permets de le redire, par cette pépite qui est ce Pipa Benedetto qui vient nous arracher, parce que tout d'un coup on retrouvait là eh bien une tête haute, des tatouages à l'envi, il en a de partout, mais surtout il a une vision du jeu, il a une grinta qui fait qu'il se permet des gestes d'un attaquant qu'on n'avait plus vu depuis Didier Drogba. Il nous a hier véritablement mis le feu, lui et les splendides arrêts de Alvaro, qui là nous ont rappelé Carlos Moser dans cette première heure.
Voilà, les recrues argentines qui vous ravissent, si je comprends bien. Gilles Pérez, je vous remercie d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager cette soirée, on l'a compris, inoubliable, cette soirée qui a vu le Vélodrome fêter les 120 années d'existence de son club, l'Olympique de Marseille, plus qu'un club, j'ai envie de dire, pour reprendre la devise du Barça. C'est toute une ville qui a communié hier. Merci beaucoup Gilles Pérez. Donc en direct de Marseille dans Radio Foot.
Un petit souvenir à Annie Gasnier quand même que vous
bien
avez
sûr.
Donné là pour fêter cet anniversaire, mais enfin qu'on va retrouver de la semaine prochaine.
Exactement. On salue Annie Gasnier qui profite encore un petit peu de ses vacances. Elle a bien raison. Merci beaucoup Gilles Pérez qui rappelait, et il a bien fait de le rappeler, que André Villas-Boas, entraîneur de l'OM, n'avait jamais vécu une telle soirée en termes d'ambiance. Et d'ailleurs, on l'a entendu en introduction de cette émission, l'entraîneur portugais. Petit rappel également sur Bernard Tapie. Donc c'est cette Ligue des Champions remportée en 93, entre autres, qui a marqué son règne, tout comme l'affaire OMVA, une affaire de corruption de triste mémoire. Salim Bamgali.
Je vais préciser quand même une chose, c'est qu'hier on parlait évidemment de Bernard Tapie qui a marqué l'histoire de l'OM, qui n'était pas invité, mais au final aucun président de l'OM précédent n'était invité hier lors de cette partie. Donc effectivement on peut pointer du doigt l'absence de Bernard Tapie, mais au final aucun autre n'était présent aussi. Donc c'est un choix de la part de la direction actuelle. Et puis quand on évoque Villas-Boas, c'est vrai que on verra ce qui se passera par la suite. C'est vrai qu'on s'emballe peut-être un peu trop pour Benedetto, même s'il a montré des belles choses évidemment à Boca. On va attendre. Nous ne sommes qu'au bout de la quatrième journée. Ce n'est que la deuxième victoire. La première, c'était face à Nice. Nice qui n'avait pas encore tous ses joueurs qui vont petit à petit s'intégrer dans le moule niçois. Saint-Etienne, c'est plutôt une belle victoire face à ce Saint-Etienne-là. Malgré tout, nous ne sommes qu'à la quatrième journée. Laissons le système marseillais se prendre à cette Ligue 1 et après on verra.
Il est déjà à Marseille, il ne va pas jouer contre Reims.
En tout cas, Marseille ne gagnera pas au Vélodrome contre Reims cette saison. Ça, c'est à peu près acté. Vous êtes d'accord avec Salim Bangali? Parce qu'on va revenir un petit peu aux affaires courantes, au jeu. Cette victoire face à Saint-Etienne, deuxième victoire de rang, Salim le disait. Pour lui, elle n'est pas convaincante. Vous êtes d'accord, Carlos, Marc?
Je suis entièrement d'accord. On n'a pas assisté à un très grand match. Le spectacle, il était dans les tribunes hier. Gilles l'a très bien décrit. Maintenant, cet Olympique de Marseille, il va falloir montrer autre chose. Benedetto, il prouve et il montre qu'il est capable de faire certaines choses. Maintenant, à quel moment il va être un petit peu plus aidé, parce qu'il est vraiment seul, c'est difficile. Alors certes, on voit très bien que la plupart du temps, quand il vient décrocher à 35-40 mètres, ben, si c'est pas lui qui fait l'effort, comme il a fait à Nice, il a la chance qu'il y ait une faute de main peut-être, mais là, sur l'accélération, mais il va pas vous le faire 10 fois dans le match.
Ouais, après,
donc ça serait bien à un moment donné qu'il ait un petit support à côté.
Vous avez été attaquant tous les deux, c'est vrai qu'on s'emballe sur Benedetto, parce que depuis 1 an, 2 ans, j'ai envie de dire, on le voit pas à Marseille.
Ouais, oui.
Et on
voit
quelqu'un enfin le faire, c'est pour ça.
C'est sûr, mais après, il va falloir parler du milieu de terrain, de Lopez, de Sanson, qui ont été pour moi vraiment pas très bons. Alvaro, c'est bonne volonté, c'est du cœur. Le jeune Camara Carrossigné, c'est pas mal, mais là il faut trouver le problème d'Amavi, parce que c'est un
arrière gauche qui aurait
problème.
Pu être expulsé Thauvin, après un tacle
qui doit être expulsé, Thauvin qui est rentré en fin de rencontre, qui va apporter un plus, donc ça c'est les points positifs, mais on peut pas alors c'est vrai, il y a les 3 points, mais après il faut montrer autre chose, parce que c'est vraiment vraiment très limité, en sachant que Luis Gustavo est parti. Donc maintenant ce milieu de terrain, alors on nous dit que Rongier arrive. On va voir, est-ce que Rongier, qui est un très bon joueur, est capable de pouvoir évoluer à l'Olympique de Marseille dans un vel en folie avec des gens? Parce que là, à Nantes, la vie, elle est belle. Hein. Tout se passe bien, on peut se promener. À Marseille, si on gagne, on peut se promener. Dès qu'on gagne pas au compte fernil, on se promène plus.
Mais
plus
justement, ce sera un cap.
Donc, non,
un cap
ça me fait rire, parce que beaucoup de gens qui disent, mais attendez, mais quel relayeur, mais quel joueur, mais quel...
Ouais, c'est là.
Va vivre à Marseille, mon garçon, ou à Aix, ou à Cassis, et essaie de sortir quand tu as perdu. Et tu vas voir ce qui va se passer quand tu sors de la commanderie, comment ça se passe.
Carlos.
Donc c'est pour ça qu'il faut y penser.
Carlos, d'ailleurs, je me permets un parallèle. Marseille, les ambiances dont on parle depuis le début de cette émission, c'est des ambiances un petit peu latines. Ça vous rappelle un peu l'Argentine, c'est un petit peu le même genre. C'est pour ça aussi peut-être que Benedetto, ils se font bien.
L'Argentine, c'est plus difficile qu'en France.
Ah oui, d'accord. Marseille, c'est
la exagération,
tranquille.
Nous, Marseille, c'est le paradis à côté de ce que ça passe à Buenos
Aires. Ah, donc Benedetto, ouais. C'est, il est en vacances ici.
Regardez-vous qu'il n'y a pas de supporters de l'équipe qui joue à l'extérieur en Argentine. Ah, vous savez pas ça?
Oui, ouais. Depuis, ça fait un moment,
depuis,
là,
disons, presque 10 ans.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas un seul supporter de, c'est interdit.
Parce que c'est quelque chose
qui tend à se systématiser.
Mais.
C'est un autre débat.
Non.
Benedetto, Carlos Bianchi, Gilles Pérez, le comparer à Drogba, on n'en est pas là, non. Mais vous en pensez quoi de ses débuts à Marseille?
Je crois qu'ils l'ont fait jouer le premier match quand il n'aurait pas dû jouer. Les 20 dernières minutes qu'il a joué. C'est parce que c'est le mec, il venait d'arriver le jeudi, mercredi.
Face à Reims qu'il a mis
face à Reims, et après il rate un penalty contre Nantes. Et là, il arrive à se remettre de de cet échec. Non, ça,
c'est un avançant qu'il a du courage, qu'il est assez rapide, qu'il est vif. Il a le sens du but. Des fois, peut-être qu'il manque une certaine tranquillité quand il se trouve tête à tête avec le gardien. Mais c'est un avançant que s'il joue toute l'année, il va marquer plus de 20 buts, il va les marquer.
Ah bah c'est très rassurant pour les supporters de l'OM,
dirait
oui. Hein, c'est une équipe qui joue le titre, disons, et qui joue parmi les meilleurs. C'est lui qui est attaquant à Paris Saint-Germain. S'il ne marquait pas plus de 20 buts, pas un attaquant.
Des attaquants à plus de 20 buts, l'OM n'en a pas vu passer tant que ça. Ces dernières saisons,
Marc Libra. Ça fait longtemps qu'on
n'en
a pas vu. Ça fait longtemps.
Et Benedetto, il a le profil pour être cet attaquant-là.
Mais oui. Peut-être, mais il pourra pas tout faire tout seul, parce qu'il peut pas, comme à Nice ou comme hier, faire la talonnade pour l'ouverture, sprinter de 35 mètres. Alors bien sûr, c'est le rôle des attaquants, mais il va le faire deux fois, trois fois. Et après, l'âge qu'il a, c'est pas forcément évident qu'il tienne tout le match.
Le problème de Marseille, je crois que c'est un fond de jeu.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas une certaine personnalité comme équipe. Il n'y a pas un créateur. Il n'y a pas quelqu'un qui change, qui met le rythme dans l'équipe. Quand il faut y aller vite, quand il faut pas aller vite.
Payet,
quand
Thauvin, ils ont pas ce profil-là.
Quand il faut faire le tempo.
Payet, il joue à gauche. Payet, quel intérêt? Alors, en fin de rencontre,
parce que
il est rentré dans l'axe, c'est plus intéressant.
Payet, quand ils ont fait jouer un soutien des attaquants, il n'arrivait pas à faire ce rôle-là. Non, il n'y a pas un numéro 10.
Alors, les supporters marseillais sont exigeants, les observateurs le sont encore plus. Marseille gagne, et vous n'êtes toujours pas convaincu.
Mais dans la manière de cette équipe, on n'est absolument pas convaincu. On l'a très bien dit, et je pense que les auditeurs sont d'accord avec nous. Après, et j'insiste malgré tout sur une chose, on sort d'une saison qui a été calamiteuse pour l'OM. On est tous d'accord pour dire que c'était pas beau, c'était pas bon. J'ai envie de dire. Il faut
c'était
que les supporters.
Pas bon, mais ils sont arrivés à la finale de la UEFA.
C'était il y a deux ans.
Il y a deux saisons déjà.
Le temps passe vite. Mais encore plus dans le foot. Mais la saison dernière, c'était pas bon. Donc j'ai envie de dire, déjà, essayons de prendre ce qu'il y a. J'entends par là, la victoire à Nice, ça a été pas belle. Mais il y a eu une victoire quand même.
S'il y a passé 12 minutes d'arrêt de jeu, peut-être que Marseille gagne pas aussi.
Exactement.
Les matchs interrompus, c'est surtout ça. Champ injurieux.
Tout à fait. Mais il y a quand même victoire. Contre Santé, hier, c'était pas beau. Il y a victoire. J'ai envie de dire. Les supporters de l'OM doivent malheureusement déjà se contenter de ça. Marseille réussit à gagner, prend au final pas trop de buts, en tout cas sur les deux derniers matchs, même contre Nantes au final. Donc j'ai envie de dire que les supporters déjà se contentent de ça, profitent de la trêve et après on verra.
Et il y a un prochain test pour ces supporters marseillais, pour les joueurs, à Monaco, le 15 septembre. Ce qui est pratique quand on joue à Marseille, c'est qu'on a un match à domicile de plus que les autres, parce que Monaco, c'est pas un vrai déplacement, ça.
Est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer?
Ah. Ouais, mais Monaco, le match,
ça risque de sonner un petit peu creux, si les Marseillais.
Pour l'équipe de Monaco, attention, il peut y avoir un avant et un après Marseille.
Oui, Monaco qui
a fait 4 matchs, ils ne sont pas gagnés.
Monaco qui n'a toujours pas marqué, mais c'est qui n'a toujours pas gagné, pardon.
Ils n'ont pas gagné en 4 matchs.
Dans cette Ligue 1, toujours pas de victoire en 4 journées, mais c'est un autre débat.
Si je vous dis que Mané n'est pas content de sortir, vous me croyez ou pas? J'ai l'impression qu'il a dit c'est toujours moi et c'est jamais Mohamed Salah.
C'est possible.
Il y a un petit peu de ça, non?
C'est possible, surtout. Eh oui, il n'a vraiment pas l'air du tout content.
C'était cool, j'ai beaucoup aimé son show. Bon, c'est vrai, il était contrarié, c'est évident. Sadio ne cache pas ses émotions et j'aime ça, mais tout est réglé. Cela vient d'une action dans le match où il n'était pas content, c'est tout à fait normal. Si cela arrivait encore, il ne réagirait pas de la même façon, mais c'est arrivé. Il n'a manqué de respect à personne, il a juste une attitude différente par rapport à ce qu'il montre d'habitude. Allez, plus personne n'en parlera dans une semaine. Mais le moment était cool pour faire ça.
And after a week, nobody can remember. remembered anymore. Cool moment to do it.
Klopp qui nous fait du Klopp pour désamorcer cette polémique née des états d'âme de notre ami Sadio Mané. Alors je vous raconte la scène. C'est un peu un crève-cœur pour les amoureux du football africain que nous sommes, bien sûr, sur RFI contre Burnley ce week-end. Le Sénégalais est sorti fâché, sous le maillot de Liverpool, bien sûr. Fâché contre son entraîneur, justement, Jürgen Klopp, ou plutôt fâché contre son coéquipier, Mohamed Salah. On va raconter ça plus en détail. Les deux hommes, Sané et Mala, forment bien sûr avec Firmino l'un des plus beaux trios d'attaquants au monde, peut-être même le plus beau. Ils ont remporté quand même la Ligue des Champions. Mané et Salah font la fierté de l'Afrique, mais on craint qu'il puisse y avoir de l'eau dans le gaz entre nos deux vedettes, Salim Bangali.
On craint qu'il puisse y avoir des attaquants, des grands attaquants qui parfois se disent « Ah, je voudrais bien marquer un peu plus que l'autre, ou je voudrais bien que sur cette action, mon coéquipier me donne la balle. » Il y a Carlos Bianchi, Marc Libra sur ce plateau, deux attaquants qui ont marqué, pas qu'un peu dans leur carrière.
Juste là, on précise, c'est ouais. Mané qui reproche à Salah de pas lui faire la passe.
C'est ça. Juste sur cette action, et je vais me permettre, si vous me permettez, Hugo, de poser bien la question sûr, après à nos deux camarades, mais vous avez Mané qui, effectivement, est très bien positionné sur l'action où juste avant où il sort, et Salah doit lui donner la balle, au final, il lui donne pas, et on voit que Mané le reproche à Salah. D'ailleurs, c'est, alors je vais pas dire que c'est véhément, mais on voit les visages qui sont agacés, et Mané sort, d'ailleurs, en étant agacé, en colère, on peut le dire ainsi. Messieurs, ça vous est pas déjà arrivé d'être agacé par un partenaire qui vous donne pas la balle? Au final, entre guillemets, on je vais pas dire qu'on l'insulte, mais bon sang, t'aurais dû me donner la balle, pourquoi tu le fais pas, etc. Oui, mais et au final, ça se calme, non?
Juste pour préciser que Liverpool s'est imposé 3-0, hein, donc il n'y a pas de naufrage collectif.
Ça, on l'a vécu. Mais attention que des fois, nous, comme buteurs, des fois, on est un petit peu trop égoïste aussi.
Ouais.
Et des deux côtés, ça bien passe. Sûr. Alors, c'est ces situations qu'il faut avoir l'intelligence et penser que son coéquipier, il a fait ce qu'il croyait que c'était le meilleur pour l'équipe.
La communication de Jürgen Klopp, elle est bonne, donc en tant qu'entraîneur, de dire, allez, on va passer vite à autre chose.
Mais écoute, ça fait une semaine, non, ça fait 15 jours. C'est arrivé la même chose avec Agüero et Guardiola. Vous rappelez pas.
Bien sûr.
Guardiola, il a sorti Agüero. Agüero, il l'a fait comme ça.
Après,
le match suivant, il a marqué deux buts. Et encore, le dimanche, il a marqué deux buts.
Et ce qui sera intéressant, d'ailleurs, sur le cas Salah et Mané, ce sera le prochain match. Liverpool-Newcastle dans deux week-ends. Est-ce que Salah sera amené à faire la passe à Mané? Je vous mets, et je vous le dis tout de suite, il la fera, sa passe.
Parce qu'ils sont pas l'esprit, tous les deux, ils sont pas l'esprit collectif qu'il a Firmino.
Alors juste, je le redis, hein, Liverpool l'a emporté 3-0, donc il n'y a vraiment pas péril en la demeure sur le plan collectif, et c'est la quatrième victoire en quatre journées de championnat pour les Reds. Donc il y a cet incident quand même qui vient un peu ternir le tableau, c'est pas anodin, Marc Libra.
Pour moi, c'est pas anodin, il y a toujours une hiérarchie des attaquants dans les clubs. Là, à part Firmino, qui lui est plus en retrait et qui va faire vivre les autres et faire jouer les autres. Quand j'ai faire vivre, c'est que il va toujours, je pense, arrondir les angles. Et parce que souvent, on a parlé des deux et Firmino, on le laisse sur le bas-côté alors qu'il est très important. Mais quand cette hiérarchie aujourd'hui, elle commence à se caractériser par des états d'âme ou par, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Surtout que, si vous le faites une fois, on peut dire, j'espère qu'il va pas me le refaire. Alors, après, ça passe par l'intelligence des joueurs en se disant, OK.
C'est ça.
Mais ça, aujourd'hui, on le sait pas, parce que peut-être qu'au prochain match, il va lui donner, peut-être qu'il va faire le crochet, il va tenter de tirer. On le sait, face le but d'Arsenal de Salah, son contrôle extérieur, son accélération, mais à tout moment, il peut donner à gauche, il peut donner, mais il va jusqu'au bout et il marque le but. Si ce but-là, il met pas, les mecs vont lui dire, oh, pourquoi tu me la donnes pas, pourquoi ceci. Hier, la Mela avec Tottenham, il y a deux trois fois des passages à 2-0 où il peut faire la différence. Le joueur a fait des choix. Ils se sont branchés, mais on le voit. Là, malheureusement, c'est quand on sort qu'on fait ce genre de gestes. Mais non, c'est juste l'intelligence des joueurs. À mon avis, il n'y aura pas de souci, mais il ne faut pas que ça dure parce que ce n'est pas bon.
C'est ça.
Toujours concernant Sadio Mané, le coup de gueule d'Abi Bey vendredi dernier est entré, osons les mots, dans la légende de Radio Foot. Hein. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook. Habib était en fait furieux que Sadio Mané n'ait pas figuré sur le podium du prix UEFA du joueur de l'année en Europe, prix remporté par un autre joueur de Liverpool, Virgil van Dijk, le défenseur néerlandais. Aujourd'hui a été dévoilé le podium du prix The Best de la FIFA. C'est une sorte d'excroissance de l'ancien Ballon d'Or.
alors. Le casting du podium est le même que du côté de l'UEFA. Messi, Ronaldo, Van Dijk, toujours pas de Sadio Mané, toujours pas de Mohamed Salah. Les deux faisaient tout de même partie des 10 nommés. C'est compréhensible pour vous qu'on ignore les deux vedettes africaines et surtout qu'on ignore Sadio Mané qui avait pris un peu l'ascendant sur Mohamed Salah sur la fin de saison dernière.
Oui, totalement, bien sûr. Et ce qui est gênant, en fait, c'est surtout le quorum de votants. En l'occurrence, comment on vote pour ce prix The Best? Puisque là, en l'occurrence, il y a des fans qui votent pour le prix The Best, il y a des sélectionneurs, il y a des capitaines de sélection, et je sais plus, et des journalistes, voilà. Le problème, c'est que, alors, je ne connais pas précisément, évidemment, le rôle de chacun et qui a voté pour qui, mais je me dis que les fans, est-ce que les fans, et les auditeurs sont des fans, là, ceux qui nous écoutent, est-ce que Cristiano et Messi, tellement dans la légende, tellement dans l'esprit des gens, ah, mais Cristiano, il a encore marqué, Messi, il a marqué 51 buts cette année, on est obligé de voter pour Messi, en fait, on peut pas voter pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Donc, Messi et Cristiano, tant qu'ils joueront, ils auront toujours cette faveur, ils auront toujours cet avantage-là. Et j'ai envie de dire, il n'y aura qu'une seule place de disponible. Entre Van Dijk, c'est-à-dire l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur du monde, et deux des meilleurs attaquants du monde. Malheureusement, Mané est peut-être derrière Van Dijk, en tout cas pour beaucoup.
Oui, et pourquoi avoir favorisé Van Dijk? Et pourquoi ne pas avoir remonté d'autres joueurs de Liverpool? Comment expliquer ce déclassement?
Parce que quand on met pas de gardien, on n'est pas content. Quand on met pas de défenseur, on n'est pas content. Là, il y a deux attaquants et un défenseur qui, pour moi, était monstrueux. Maintenant, le choix des deux joueurs, on va se rappeler qu'il me semble qu'en 2013, Ribéry doit être le meilleur joueur du monde et on le fait pas passer. Enfin voilà, il avait gagné 5 titres, il était...
Et toujours... 2006, c'était Cannavaro.
Et voilà, donc...
2006, c'était Cannavaro.
Alors, c'est notre époque. Là, les systèmes de vote ont encore une fois changé, puisque ça avait changé depuis Cannavaro, ça avait changé en 2010. Là, c'est repassé à autre chose. Tout ça est très compliqué et difficile à suivre.
Mais bien triste pour Sadio Mané quand même.
On va conclure sur cette polémique née des récompenses individuelles. La saison vient de débuter. La saison des prix individuels vient de commencer. Donc les débats.
Ça fait la peine à quelqu'un qui a fait une si belle saison comme Mané soit pas reconnu.
Allez, on va parler du derby de Londres.
Kane for Tottenham scores. 10 goals.
10 comme le nombre de buts mis dans le derby par ce garçon-là, Harry Kane, spécialiste en la matière.
Pierre-Emerick Aubameyang,
le serial buteur Pierre-Emerick Aubameyang.
North London derby.
Ce derby est totalement fou.
Full level at 2-2.
Oui, car le match of the weekend, ce n'était pas vraiment Burnley-Liverpool, c'était plutôt le North London Derby, le derby du nord de Londres, très emballant. Arsenal-Tottenham, emballant grâce à Kane, grâce à Aubameyang, grâce à Lacazette, deux partout score final, alors que Salim Bengali, Tottenham menait 2-0 sur le terrain de son rival. Est-ce qu'on a assisté à l'un des plus beaux derbys du nord de Londres de ces dernières années?
Oui, plus beau. Déjà, la saison dernière, il y avait eu un 4-2 pour Arsenal face à Tottenham, avec Tottenham qui avait marqué le premier but dans la partie. Mais là, en plus des retournements de situation, il y a 2-0 pour Tottenham, le penalty d'Harry Kane. On se dirige vers un 2-0 à la mi-temps. Lacazette vous marque un but exceptionnel juste avant la mi-temps. Rentrer à 2-0 et à 2-1 dans le vestiaire, c'est évidemment plus du tout la même chose. Et puis Arsenal, la manière dont Arsenal a appuyé en seconde, c'est perso ça qui m'a impressionné et qui a rendu ce match absolument incroyable, de réussir à appuyer alors à travers certains joueurs, les buteurs et donc Guendouzi, on aura l'occasion d'évoquer. Enfin, la manière dont Arsenal a joué en seconde période, ça c'est une manière de champion, qu'Arsenal ne sera pas à mon sens, mais la manière, c'était exceptionnel.
Du coup, qui sort renforcé de ce match nul? Tottenham qui va chercher un nul à l'extérieur, ou alors Arsenal qui remonte un retard de deux buts?
Pour moi, c'est un nul qui n'intéresse personne. Quand on a vu la contre-performance de Tottenham il y a quelques semaines aussi, ils ont perdu.
Oui, contre Newcastle.
Contre Newcastle. Arsenal qui s'est fait trier la semaine dernière. Ça n'arrange personne. Dans la course, c'est-à-dire que les deux qui sont devant, qui sont City et Liverpool, on peut pas se permettre voilà. Pour moi, Tottenham doit faire le break. Il n'arrive pas à le faire. Et Arsenal a une puissance offensive, mais très impressionnante. Et derrière, par contre, c'est toujours Mais alors très compliqué.
C'est impressionnant, on pourrait redire, enregistrer ça il y a 3 ans, on ressortirait maintenant ce qu'il y a 3 ans.
On disait que c'était Koscielny.
Vous êtes sympa, parce qu'on pourrait...
Avant, on disait que c'était Koscielny. Parce que Koscielny restait tellement longtemps, il disait lui.
Donc du coup, personne ne sera sûr vraiment, et surtout...
Non, parce que ce sont deux équipes qui, en principe, après Liverpool et Manchester City...
Et donc là, on a bien vu que ce n'était pas des poursuivants de Liverpool et Manchester City.
Mais ils sont du mal. Ils sont du mal à démarrer, et je pense qu'ils vont souffrir cette année.
Ah, même pour le Big Four?
Non, pas pour le championnat d'Angleterre, parce qu'à la fin, ils vont finir parmi les meilleurs. Mais Tottenham, qui l'année dernière, il a fait une très bonne Coupe d'Europe, je ne sais pas si cette année, il va produire la même...
Ça va être difficile pour Tottenham aussi, parce que c'est vrai que sans Hugo Lloris, il y a peut-être Arsenal, on revient au score plus rapidement et met plus de pression.
Oui, Tottenham 9e pour l'instant, après 4 journées certes, mais qui réalise un début de saison... mitigé. Arsenal est 5e, ça va un petit peu mieux. Matteo Guendouzi, alors là, c'est un petit peu l'actualité qui est en relation avec ce match, avec ce derby. Matteo Guendouzi remplace Paul Pogba en équipe de France pour affronter l'Albanie et Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro. Matteo Guendouzi, jeune joueur qui est passé directement de Lorient de la Ligue 2 à Arsenal et qui a impressionné hier, Salim.
Oui, c'est vrai qu'il est surtout auteur d'une progression intéressante à Arsenal depuis qu'il est arrivé. La saison dernière, on se posait des questions, on se disait surtout, bon, c'est un jeune, il va apprendre à côté de certains, à côté de Xhaka et d'autres, sauf qu'au final, apprendre à côté de Xhaka, vous pouvez même prendre la place de Granit Xhaka, alors même s'il était aux côtés du Suisse hier, mais Guendouzi est devenu un élément clé de cette équipe d'Arsenal au milieu. Alors il reste encore très jeune, il est encore parfois défaillant, mais il ne cesse de progresser, et hier, il a fait une seconde période, comme Arsenal. Est-ce que c'est lui qui a été le moteur de cette seconde période d'Arsenal, peut-être? Il a été l'auteur d'une seconde période phénoménale. Lloris, à un moment, réalise une parade incroyable sur l'une de ses tentatives.
Il est passeur sur le but d'Aubameyang.
Exactement, la passe pour Aubameyang est sublime. Enfin, il montre, depuis le début de la saison, qu'il est l'élément clé d'Arsenal. C'est normal qu'il soit appelé.
Kanté aussi, là?
Kanté
est blessé.
Kanté n'est pas là dans la liste de l'équipe de France. Effectivement, il y a des places qui se sont un peu libérées. 20 ans, tout de même. Encore une fois, passer de la Ligue 2 à la première ligue, c'est quand même très très impressionnant.
Oui, c'est impressionnant, mais c'est quelque chose qui n'aurait pas été forcément possible il y a quelques années. Le football évolue très vite. Quand on prend le cas d'Ikoné qui est appelé alors que Lacazette a fait un match monstrueux, Salim met en évidence ce but, ce 1-2, il passe dans la défense, il décale côté gauche, il frappe. Non, Lacazette est pas là, donc je veux bien Ikoné, c'est très sympa, mais qu'est-ce qu'il va faire avec c'est bien pour lui, hein, je suis ravi, mais à un moment donné, il y a des joueurs qui méritent, quoi, donc il faut les prendre, quoi. C'est
vrai qu'on parle de l'équipe de France, Lacazette, auteur d'un but magnifique, donc contre.
Non, mais
Tottenham.
C'est pas qu'une fois, ça fait longtemps.
Régulièrement boudé par Didier Deschamps, Lacazette, Aubameyang et Pépé. Trio d'attaque aligné ensemble dès le coup d'envoi pour la première fois cette saison, pour la première fois depuis que Pépé, le primaire Vivien Fauré 2019 est arrivé. Vous avez pensé quoi de cette association?
Il y a eu des choses intéressantes avec, il faut le dire d'ailleurs, Lacazette qui était en pointe en fait. Donc il était en neuf, Aubameyang à gauche, Pépé à droite. On a senti déjà que les joueurs se trouvaient. Voilà, ils ont même pas besoin de se regarder, ils s'apprécient, et c'est bête, mais quand vous appréciez en dehors, il y a quelque chose en plus qui se passe sur le terrain. Après, c'est surtout, reconnaissons-le, Aubameyang et Lacazette qui se trouvaient facilement, forcément ils se connaissent très bien, et Pépé parfois avait un petit peu du mal soit à comprendre les courses de Lacazette ou les courses de Aubameyang, il était beaucoup obligé de repiquer dans l'axe et passer derrière en fait, il était obligé Pépé,
il a
besoin de temps encore.
Pépé, mais il a servi Lacazette. Il est centré, lui il est plus fort quand il est à l'extérieur. Pépé.
Oui, vous en avez pensé quoi de ce trio d'attaque en devenir Carlos Bianchi?
Il faut voir s'il va jouer en attaque, peut-être qu'il décroche un petit peu, il joue en 4-4-2. Je pense que c'est plus pour quelqu'un pour partir de loin, Pépé, pour moi.
Et pour l'instant, ses débuts, vous les trouvez encourageants?
Il est en train de découvrir un football complètement différent à celui de la Ligue. Alors, l'Angleterre, c'est différent. Alors, il faut attendre, il a les qualités.
Oui. Il a la vitesse, il peut faire la différence, mais il est pas loin parce qu'hier il fait 2-3 enchaînements. Il est pas loin. Maintenant, est-ce que les deux autres vont lui laisser de la place? Parce que rappelez-vous, l'année dernière c'est Aubameyang, après non c'est Lacazette, après Lacazette retourne sur le banc, après c'est Aubameyang, et là du coup on passe à 3. Donc on se languissait tout le monde de les voir enfin à 3. Donc physiquement je pense qu'ils sont bien, mais maintenant Là, il y aura peut-être un embouteillage pour pouvoir jouer après, et se créer une place.
Au moins, ce qui était bien hier, c'est de voir Emery aligner les trois dans un grand match.
Ouais, oui.
Parce que la semaine passée, c'était face à Liverpool. Et souvent, Emery, lors d'un
grand adversaire. Attention, qu'à Liverpool, c'était à l'extérieur. Ouais,
il a mis Pépé, il n'avait pas mis la casette qui était rentrée.
Donc là, au moins, il a osé le faire et à mettre les trois.
Il a démarré, il joue à la maison.
Mais j'espère qu'on pourra le voir effectivement les prochaines semaines aussi.
Allez, de l'Angleterre à l'Italie. D'un Sénégalais déçu à un autre.
Ferma Higuain, dribbling Higuain, un gol pazzesco. Pipita.
Pipita qui vient marquer, exceptionnel.
Rete, ha pareggiato il Napoli con Di Lorenzo.
Organisation, Giovanni Di Lorenzo. Et là c'est Koulibaly.
Clamoroso errore di Koulibaly, sfortuna incredibile.
Il a pris de l'extérieur.
Qu'est-ce qui se passe, Carlos?
Vous êtes bien ici. Non, non, il nous recontextualise.
Alors racontez ce qui s'est passé.
Le geste qu'il a fait, Koulibaly. Normalement, le ballon il doit aller à l'extérieur du but. Mais lui, il a raté la frappe.
Alors, je remets tout ça un petit peu dans le contexte. C'est shakespearien ce qui s'est passé à Turin. Juventus-Naples, un choc pour lancer cette Serie A qui n'en est qu'à sa deuxième journée. Naples, au moment où on entre dans le temps additionnel, vient de réaliser l'impossible. Naples vient de remonter...
Trois buts
sur le terrain de la vieille dame. Mais le Sénégalais... Koulibaly rate un dégagement donc dans le temps additionnel.
Sur un ballon, un centre de Pjanic rentrant.
Voilà, et il nous signe une reprise de volée involontaire, un hommage involontaire à Carlos Bianchi, parce que ça termine en lucarne.
Mais normalement, jamais il doit aller le ballon où il a mis lui. Parce qu'il est sur le premier, il est au premier poteau et en plus du pied gauche. Le pied, il va vers l'extérieur, il doit aller vers l'extérieur le ballon.
Vous savez, Hugo, on parlait en off pendant. C'est-à-dire que je peux vous assurer. C'est irréalisable. C'est-à-dire qu'on m'envoie, n'importe quel joueur ne peut pas réussir. C'est-à-dire que, il y a un centre qui arrive de Pjanic.
À droite.
Une frappe qu'on doit dégager, le ballon, il arrive à le mettre à l'opposé en lucarne. Mais c'est irréalisable. Même si on veut faire exprès, un attaquant de haut niveau ne pourra jamais faire ça.
Alors, est-ce que c'est une erreur ou c'est vraiment juste de la malchance?
C'est une erreur. C'est il a pas de chance.
Il a raté le ballon.
Ah oui, il a pas de chance.
Mais Ancelotti l'a dit, hein. Ça, c'est la honnêteté de quelqu'un que moi j'aime beaucoup, Ancelotti. Et il a dit, nous avons mal joué.
Alors justement, justement.
Nous avons mal joué.
Justement, Ancelotti, on va l'écouter.
C'est très facile d'expliquer notre défaite de ce soir. Nous avons été très mauvais dans la première heure, mais nous avons réussi à rectifier le tir et à être très bons dans les 30 dernières minutes. Nous perdions 3-0, mais nous avons réussi à revenir à 3-3. Ensuite, nous avons concédé un but à cause d'une erreur de notre part. On a mérité de perdre parce qu'on a très mal joué pendant une heure.
Oui, car je n'ai pas eu le temps de donner le résultat final. 4-3 pour la Juventus. Alors voilà, on vient de l'entendre, Carlos Bianchi, Ancelotti. Effectivement, un constat sans concession pour son équipe. Mais la défaite, elle est méritée
voilé,
malgré l'exploit.
C'est voiler la face. Ça sert à rien. La réalité au football, tu la vois. Un joueur de football, il sait quand il a bien joué, il a mal joué. Et à l'intérieur, il sait quand son équipe, il a bien joué, mal joué. Tu peux aller à la conférence de presse après pour un entraîneur, mais tu peux pas dire oui mon équipe il a bien joué si tu sais très bien qu'il n'a pas bien joué. Tu peux défendre tes joueurs. Tu peux le défendre, tes joueurs, mais tu peux pas reconnaître si tu as bien joué ou mal joué.
Du coup, on peut pas parler de scénario cruel pour Naples. Une défaite sur le fil après avoir réalisé un exploit, mais c'est mérité.
Non, mais c'est cruel parce que 0-3, tu fais un 3-3.
C'est ça. Ce qui est cruel, c'est que pourquoi, à un moment donné, pendant une heure, c'est-à-dire, mais il se passe rien, j'ai vu le match, la première mi-temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la Juve déroule tranquillement, Danilo qui rentre, enfin, Higuain qui met un but de folie, et ce qui est fou, c'est que quand arrive ce troisième but de la Juve, à ce moment-là, petit coup franc, Manolas qui reprend la tête, et puis là, même les joueurs de Naples ne vont pas chercher le ballon de départ, et puis la Juve, et puis trois minutes après, le deuxième but arrive, et là, la machine napolitaine se met en marche, et c'est là qu'il peut y avoir du regret, parce qu'il y a une transversale aussi en fin de match, et puis après, c'est un coup du sort. Mais c'est vrai que quand on est joueur du Napoli, qu'on a joué que 30 minutes, et quand on s'assoit et qu'on rentre à la maison, qu'on dort pas de la nuit, on se dit, on a été mauvais quand même. Même si on a perdu, on a été mauvais.
Alors, 3 buts encaissés, là on va parler de la Juve, 3 buts encaissés, Chiellini qui est victime d'une blessure très grave, il a 35 ans, il s'est fait les croisés, Chiellini. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour les supporters turinois?
Dichilio est sorti à la place de Danilo aussi, c'est voilà, pour ça que Danilo est rentré pour son premier match.
Et qui a marqué d'ailleurs.
Et qui a marqué sur le ballon.
Il y a des problèmes concernant l'arrière-garde, elle est sans défense, alors, un peu cette vieille dame.
Sans défense, vous avez quand même De Ligt qui est là, hein, justement, dans
la défense centrale.
Même si elle prend 3 buts, mais effectivement, c'est vrai que De Ligt, d'ailleurs, il y a quelques semaines, il pensait arriver peut-être plus vite à ce poste de titulaire. Bon, a fortiori, il va l'être désormais. Mais j'ai envie de dire, c'est au final pour ça que la Juve a acheté aussi. C'est pour avoir un banc, pour pouvoir remplacer les éventuelles blessures et pallier ces éventuelles blessures. En soi, ça me choque pas d'avoir De Ligt et à ses côtés, en l'occurrence Bonucci qui sera à ses côtés.
Il va jouer Bonucci avec l'Hollandais.
Donc pardon, vous avez l'expérience de Bonucci qui va apprendre à De Ligt c'est quoi aussi d'être défenseur central à la Juve et De Ligt avec sa qualité. Donc j'ai envie de dire, j'ai pas de souci là-dessus perso.
C'est aussi la patte Sarri, alors qui n'est pas à proprement parler aux commandes parce qu'elle a des petits soucis de santé et pas sur le bon touche. C'est la patte Sarri de jouer l'offensive et aussi de éventuellement s'exposer.
Mais non, mais c'est de ce côté-là. Les Italiens, ils arrivent toujours à s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais moi, je voudrais qu'on raconte un petit peu. Qu'est-ce qu'il était beau le but d'Higuain
aussi. Magnifique.
C'est l'attaquant qui veut parler.
Parlez-en.
Vous voulez parler des attaquants.
Parlons-en. Magnifique but d'Higuain.
On a l'impression qu'il dévisse. On a presque l'impression qu'il va dévisser. Pleine lucarne.
Higuain qui, d'ailleurs, dribble Koulibaly, le malheureux Koulibaly, au passage avec un contre favorable. Higuain, qu'on a exfiltré l'an passé, Milan, Chelsea.
Il a retrouvé l'entraîneur qu'il avait eu à Naples.
Sarri.
Avec celui-là, il avait marqué 36 pions.
Mais je rappelle aussi que l'année dernière, il était à Chelsea avec lui.
Ouais, exactement. C'est un autre football. Qu'à lui, ça lui va mieux. C'est le football italien que l'anglais.
Mais sans doute, parce que l'année dernière, Sarri, donc on se disait justement que ça pouvait marcher. Au début, on a eu cette impression. Et au final, Higuain a eu beaucoup de mal. Même au final, Sarri préférerait mettre Giroud, voire Hazard en faux neuf, que Higuain. Comme quoi, Higuain est vraiment fait au final pour le foot italien et pas pour le foot anglais.
Mais ça vous fait plaisir, vous, les anciens attaquants, les.
À nous, ça nous fait plaisir.
Carlos Bianchi, Marc Lebrun, mais surtout attaquant qu'on a beaucoup discuté, qui a raté des occasions lors de finale avec l'Argentine, qu'on a mis un peu de côté à Turin, et c'est une belle renaissance.
Autant Higuain, autant Agüero, ils sont critiqués. Parce que comme il a critiqué Messi en Argentine parce qu'il n'a pas été champion d'Amérique.
Marc Libra sur
Benedetto, il est appelé dans une équipe nationale, Benedetto, il me semble. Vous êtes sûr? Vous vous rappelez? Benedetto a été appelé, non? Avec l'équipe d'Argentine.
Je crois qu'il était
appelé.
Il me semble, de mémoire.
Parce qu'il n'était plus un international, il l'a rappelé par rapport à sa venue à Marseille, il me semble. Je vérifierai, mais il me semble que c'est passé. L'info est passée. Oui, vous me disiez, mon cher Hugo.
Mais est-ce que vous êtes heureux de la, vous l'ancien attaquant, est-ce que vous êtes heureux de la renaissance de Gonzalo Higuain?
Higuain, ça reste un buteur. Alors, il est peut-être pas très beau, il est pas très joli, mais par contre.
Il est pas beau à voir.
Eh ben, on le sait qu'il est pas beau. Mais le seul truc, c'est que s'il y a un ou deux ballons qui traînent, eh ben, il va être là. Aujourd'hui, en fait, on crée plus ce genre d'attaquant. Vous savez, un Trezeguet qui va rôder, qui va attendre. Alors, pour les plus historiques, un des Lyonis qui bouge, qui faisait à peu près 10 mètres carrés dans le match. Enfin, sur 10 mètres carrés, il a bourré tout. Par contre, il y avait deux ballons, c'était deux buts. Et c'est un attaquant. Parce que la vivacité, quand il prend Koulibaly de vitesse, ça se passe sur 2 mètres hein, pour enchaîner et décaler sa frappe.
Il n'est pas très rapide, lui.
Et il n'est pas rapide, par contre, sur 2 mètres, il a fait la différence.
Mais la question, c'est que lui, il était obligé à partir de Real Madrid parce que le président.
Benzema,
il avait,
parce que
Benzema, il jouait pour Ronaldo. Par contre, Higuain, il jouait comme avant-centre. Et en avant-centre, c'était pas bien joué pour Ronaldo. Et le président, il aimait plus Ronaldo qu'Higuain.
Merci, Carlos Bianchi. Bon retour en Argentine.
C'est merci beaucoup. Dernier avant, 6 mois, on s'est rêvé.
Avant le printemps, vous allez beaucoup nous manquer, Carlos. Merci d'avoir été avec nous tout ce temps.
On a impatience
de vous retrouver. Merci, Marc Libra. Merci, Salim Bongali. Radio Foot revient demain. C'est Christophe Jousset qui sera aux commandes. En attendant, excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde.